franceinter.fr.
La revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par la soirée foot. Hier soir et les graves incidents au stade de Furiani.
Il y a une vraie raison d'avoir peur quand tu vas jouer à Furiani. Bon, tu rigoles. Aujourd'hui, tu vas jouer à Bastia. Tu risques quoi par te ramasser un drapeau en plastique sur la tête ? Interview à retrouver sur le site de SoFoot, réalisé avant le match fatidique, mais pas franchement visionnaire, faut bien l'avouer, du Bastiais d'origine et de cœur, Pascal Olmeta, gardien passé par le SC Bastia, mais aussi par Toulon, l'OM ou l'Olympique Lyonnais. Olmeta qui raconte presque avec gourmandise l'ambiance, on dira virile, qu'il a connue en son temps à Furiani. Crachat entre capitaines dans le tunnel du stade, bagarre en tribune, ses propres parents, frères, cousins qui ne supportent pas les insultes portées à leur fils revenu sous les couleurs de Toulon et qui échangent des coups de poing. Mais à quelques heures du coup d'envoi Bastia OL hier, Olmeta en était convaincu, ça n'existe plus tout ça.
Raté, récit et commentaire dans la presse ce matin après ces incidents qui ont donc conduit à stopper le match entre Bastia et Lyon.
On pensait avoir tout vu, tout vécu, tout connu à Furiani, mais un envahissement de terrain avant la rencontre, jamais, raconte Corse Matin qui titre « Suicide ». Provocation, insulte, grand n'importe quoi. Une sorte d'anarchie qui va coûter une fortune au Sporting et pas seulement sur le plan financier. Alors le quotidien régional Corse ne dédouane pas complètement les ultras du club, mais tout de même tente de disséminer un petit peu les responsabilités des uns et des autres. Corse Matin accuse en effet le gardien lyonnais, Anthony Lopez, d'avoir eu, je cite, des gestes déplacés avec les supporters bastiais. Belle mentalité, conclut-il. En gros, c'est aussi un petit peu sa faute tout ça. Le quotidien sportif, l'équipe, lui, refait le match quasiment minute par minute. Ce matin, photos à l'appui. Cela aurait dû être une belle journée, ça a été un cauchemar. En raison de la folie irresponsable de 60 à 80 supporters de Bastia 1905, le club corse a tout perdu hier. Le match, les points, sa place en Ligue 1, mais c'est encore le foot qui a le plus perdu. 16h47, en fin d'échauffement des joueurs lyonnais, début de la folie. En quelques secondes, tout dégénère. Bagarre générale irréelle quand des supporters envahissent la pelouse et vont jusqu'à poursuivre les Lyonnais jusqu'à l'entrée dans les vestiaires. Autre scène irréelle, quand ils regagnent ensuite tranquillement les tribunes, il ne se passe rien. Les supporters corses qui viennent de frapper les joueurs ne sont pas inquiétés une seconde. Aucun signe de force de l'ordre, même discret. Une heure plus tard, le match reprend. Nouvelle bagarre, scène incroyable de stadier donnant des coups de pied aux joueurs lyonnais. Fin du match, comment ils disent Olmeta déjà, ça n'existe plus tout ça. L'équipe titre a pleuré et Vincent Duluc déplore l'infinie bêtise de quelques-uns qui, décidément, reconnaît-il, nous laisse une foi vacillante envers ce jeu et les hommes qui l'entourent. Il est probable, poursuit-il, que les clubs périssent par là où ils ont péché. Le laxisme, la complaisance et parfois une forme de complicité avec les supporters qui finissent un jour ou l'autre par les expédier par le fond.
Philippe Poutou, une réaction à ce qu'on a vu hier, à ce qu'on entend depuis ce matin, à cette bêtise, rappelait Hélène Jouan, le mot est presque faible des supporters hier soir.
Ah, j'ai pas vu, j'ai pas suivi, mais bon, ça me surprend pas.
Pas de la part de supporters corse ou de la part du foot en général?
En général, voilà. Bon, en Corse, il y avait déjà eu pas mal d'événements, ou même du côté de Nice et tout ça, c'est souvent très tendu. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le foot véhicule pas mal de bêtises quand même, de chauvinisme et de bêtises, ça va ensemble, y compris de racisme parfois. Donc voilà, c'est aussi un peu le problème du foot, les enjeux du foot avec tellement de pognon, tout ça, c'est écœurant. Puis en même temps, donc des
votre prédécesseur Olivier Besancenot adorait le foot.
Oui, mais on peut aimer le foot et puis condamner ça.
C'était plein de paradoxes
Aimer le foot, le pratiquer, le foot amateur et tout ça, il y a plein de bonnes choses, mais on peut dénoncer quand même le pognon qu'il y a dans le foot et les préjugés qui sont véhiculés dans le foot, et notamment, moi je pense, l'homophobie ou le racisme. Quoi. Voilà, on peut le constater et puis déplorer ça et puis de dire, ouais, ras-le-bol de ça, ça serait bien que le sport soit débarrassé de tout ça. Quoi.
Autre match en vue, Hélène, sans envahissement de pelouse, a priori, il paraît qu'il y a un premier tour de la présidentielle qui se rapproche.
J-6, mais le vrai compte à rebours débutera sans doute demain. La presse quotidienne nationale, en tout cas, est bien discrète dans les kiosques ce matin pour cause de week-end pascal. Alors on tiendra qu'aujourd'hui en France, le Parisien souligne les petits arrangements du PS pour ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire les écolos et Macron. Dans le fameux accord électoral passé entre le Parti Socialiste et les écologistes, sur 42 circonscriptions, on en trouve en effet une dizaine où les députés PS sortants ont déjà rallié En Marche. Résultat, pas de candidat socialiste contre plusieurs proches d'Emmanuel Macron. Ça pourrait s'appeler un accord gagnant-gagnant, en quelque sorte, pour le PS, qui satisfait les écologistes sans se mettre à dos ceux qui apparaissent aujourd'hui comme les favoris. C'est pas bête. On retiendra aussi qu'il y a décidément des candidats à la présidentielle qui n'aiment pas les questions qui fâchent. Peut-être qu'un jour, on parlera de fillonnade ou de mélanchonnade. François Fillon a réitéré son refus de venir à BFM TV pour répondre à Jean-Jacques Bourdin. Du coup, ce sera François Baroin qui le remplacera. Mais surtout, nous dit le Parisien, le journaliste a lui-même décidé de se faire remplacer. C'est son joker qui fera l'interview à sa place. Nah, Jean-Luc Mélenchon. Exactement. En meeting hier à Toulouse, a distribué, lui, non pas des œufs de Pâques, mais des baffes, nous raconte Raphaël Proust sur le site de l'Opinion. Des baffes avec le rire et le sourire, dit aussi Rachid Laïrech sur le site de Libération. Pour s'en prendre à François Fillon et la veste électorale que les électeurs pourraient lui offrir, un petit peu moins souriant pour défendre son alliance bolivarienne, quand tous les autres candidats ont eux-mêmes, dit-il, des accointances avec la Russie, le Qatar, l'Iran ou le Venezuela. Carrément lyrique, enfin, pour défendre la presse. L'heure de la libération approche, lance-t-il aux journalistes. Comprendre, avec lui, ils seront libres. Terminer la pression des chefs et des actionnaires. Mais Rachid Laïrech ironise à son tour. Peut-être que Mélenchon, président, acceptera de répondre aux questions de Libé. Il a coupé le contact depuis plusieurs mois. On croit savoir que la ligne éditoriale n'est pas à son goût. Alors peut-être que par crainte d'être à son tour victime d'une mélenchonnade, le quotidien gratuit 20 minutes a trouvé une astuce. Aujourd'hui, sur son site, une requête. Nous allons l'interviewer, Jean-Luc Mélenchon, et pour cela, nous avons besoin de vous. Remplissez le formulaire ci-dessous pour poser une question qui fâche à Jean-Luc Mélenchon. Eh ben voilà, c'est pas bête de faire poser les questions qui fâchent par les lecteurs.
On termine en bref, Hélène.
Bref aperçu, effectivement, sur la presse turque, qui se divise évidemment entre soutien et opposant à Erdogan ce matin. Le quotidien pro-gouvernemental Sabah salue une victoire pour la démocratie et la stabilité du pays. Avec ce scrutin, écrit son éditorialiste, transparent et libre. Quand le journal d'opposition Cumhuriyet insiste sur le fait que cette victoire étroite permettra surtout à celui qui se rêve en nouveau sultan turc de conserver le pouvoir jusqu'en 2029. Beaucoup de place également accordée à ce référendum dans la presse allemande. On retiendra la une du Bild, victoire d'Erdogan ou fraude violente, s'interroge le journal. Et puis pour les amateurs de la famille royale britannique, il y en a une interview rare car intime du prince Harry dans The Telegraph. Le prince, 32 ans aujourd'hui, revient pour la première fois avec une incroyable franchise sur ce qu'il a vécu au moment du décès de sa mère, la princesse Diana. Il avait 12 ans à l'époque. Pendant 20 ans, dit-il, j'ai pratiqué la politique de l'autruche, ne jamais penser à elle. 20 ans de chaos total, avoue-t-il, d'accès de violence. Avant qu'il accepte de se faire aider par des professionnels. Alors pourquoi cette introspection publique maintenant? Eh bien pour donner, semble-t-il, un coup de pouce à une campagne soutenue par son frère, le prince William, visant à mettre fin à la stigmatisation de la santé mentale. Harry, un prince qui vous veut du bien, après avoir été au plus mal. Étonnant podcast royal que vous pouvez écouter sur le site du Télégraphe.
Merci, c'était la revue de presse d'Hélène Jouan. Dans un quart d'heure, ce sera l'heure du billet de Sophia Aram. Bonjour Sophia.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Eh bien, si la campagne électorale était une série et que vous aviez raté quelques épisodes, je vous offre les Previously, vous savez ?
Oui.
Previously on the campagne.
Avec l'accent. À tout de suite, Sophia, et dans quelques instants, le retour de notre invité Philippe Poutou et vos questions 01 45 24 7000.